Il est 18h, merci à vous d'écouter Europe 1.
Quand on est danseur, on est élève jusqu'à la fin de ses jours. En fait, jusqu'au dernier jour, on apprend quelque chose de nouveau. Et ça demande une énergie absolument colossale. Et je suis heureux d'apprendre ça, je suis content comme tout.
Patrick Dupont est mort, l'ancienne étoile de l'opéra de Paris et de la danse est décédé cet après-midi à l'âge de 61 ans.
On lui rendra hommage dès le début de ce journal. On reviendra sur le parcours d'un homme qui a eu plusieurs vies, danseur bien sûr, mais aussi plus jeune directeur du ballet de l'opéra de Paris, une icône que le destin n'a pas ménagée.
La lettre d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, demande par écrit au personnel soignant de se faire vacciner contre le Covid. Le virus est devenu le principal vecteur d'infection nosocomiale à l'hôpital et dans les EHPAD.
Que se taisent les armes, ce sont les premiers mot du pape François à son arrivée tout à l'heure sur le sol irakien. Déplacement à haut risque, mais très fort en symbole.
Bosch acte la chute des ventes de moteurs diesel. L'équipementier va supprimer 750 emplois dans son usine de Rodez en Aveyron.
La fin du Vendée Globe. Cette fois, c'est vraiment fini avec l'arrivée du tout dernier concurrent. C'est un Finlandais de 58 ans qui a bouclé ce tour du monde à la voile en 116 jours. Et c'est une performance quand on sait que ce navigateur est en réalité un pilote d'avion de ligne dans le civil.
La Bourse de Paris termine en baisse de 0,4%. 82% à 5782 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
La météo, dégradation prévue pour demain dans le sud.
Oui, puisque le soleil est de retour sur la moitié nord, ça c'est plutôt une bonne nouvelle avec un temps très lumineux, mais toujours cette bise qui souffle et qui nous donne froid. Sur la moitié sud, nuages, averses et neige en montagne. C'est le programme pour demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Une étoile vient donc de nous quitter. Patrick Dupont est mort cet après-midi à 61 ans. La danse perd un génie et l'une de ses figures les plus connues dans le monde.
Oui, Patrick Dupont qui a connu la consécration à 21 ans en devenant danseur étoile de l'Opéra de Paris. C'est un personnage, une personnalité atypique, volontiers indisciplinée, mais avec un charisme fou et un don qui ont séduit les plus grands chorégraphes, Diane Genouda.
Oui, l'enfant terrible de la danse a travaillé avec les plus grands noms. Hein. Nourrieff, Béjart, Roland Petit, danseur surdoué. Patrick Dupont passe par la voie classique, l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et puis à 21 ans, c'est la consécration. Il est nommé danseur étoile. Son physique de jeune premier, sa personnalité flamboyante, son style félin font très vite de lui une star de la danse. Béjart lui offre un de ses plus grands rôles de danseur travesti dans Salomé en 86. Puis il devient patron de la danse à l'Opéra de Paris, mais ça se termine mal. Il sera licencié pour indiscipline. Commence alors une période noire pour Patrick Dupont. En 2000, il est victime d'un grave accident de la route qui a failli lui coûter la vie. Puis il revient après 10 ans d'absence, l'histoire d'une renaissance.
On m'avait dit marcher peut-être, mais danser jamais. Et ma première réaction, c'était de dire non. Non, je n'accepte pas. J'ai demandé de la musique, on m'a apporté un petit poste de radio. C'était le Boléro de Ravel, un clin d'œil de Maurice Béjart dans ma chambre d'hôpital. Et j'ai su à ce moment-là que j'allais redanser en fait. C'est magique, c'est l'histoire d'un rêve.
À 52 ans, Patrick Dupont redanse avec la même flamme qu'à 20 ans. Il joue dans une comédie musicale, un air de Paris, il touche à la télé-réalité, devient juré dans l'émission Danse avec les stars en 2018. Et ces dernières années, il s'était installé à Soissons, il montait des spectacles de danse classique et orientale. Aujourd'hui, a déclaré celle qui travaillait avec lui, il s'est envolé pour danser avec les étoiles.
Merci Diane Genouda pour cet hommage en direct. Diane Genouda du service culture d'Europe 1 avec nous, l'ancienne directrice de la danse à l'Opéra de Paris. Brigitte Lefebvre avait d'ailleurs succédé à Patrick Dupont.
Bonsoir Brigitte Lefebvre.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. On a beaucoup dit de Patrick Dupont qu'il avait révolutionné la danse. En quoi, selon vous, était-il différent des autres danseurs ?
Vous savez, il a évolutionné la danse, mais moi j'ai eu la chance, comme vous le dites, de diriger cette compagnie. Et d'ailleurs, juste après Patrick, avec qui j'étais restée en bonne relation, c'est une constellation, chacune a sa lumière, mais la sienne était vraiment particulière. Moi, à cet instant précis, je pense à lui, petit garçon, je suis plus âgée que lui, et je le revois, ce petit garçon beau, coquin, je le revois avec son copain Jean-Marie Vidiac, qui faisait des blagues sur la direction de Claude Bessy, qui ne l'appréciait pas tout le temps, mais en tous les cas, enfin, qu'il adorait, mais ce qui est formidable, c'est de voir toute cette potentialité qu'il avait dès le départ. D'abord, vous savez, c'est pas démocratique la danse, c'est démocratique par rapport à ceux qui peuvent y venir, c'est jamais assez, mais il faut choisir, il y a des critères, il avait tous les dons. Il avait tous les dons, il a la sympathie, il a eu très vite d'ailleurs un charisme, vous avez fait un très bon sujet à l'instant même, le charisme auprès du public, il voulait sauter plus haut que les autres, il voulait tourner plus que les autres, il voulait tout, Patrick, et c'est formidable, on peut presque dire trop, Parfois, ça faisait penser un peu à Icare qui se brûle les ailes en voulant se rapprocher du soleil, mais ça lui était égal.
Brigitte Lefèvre, pardon, mais c'est un personnage qui donne le sentiment d'avoir eu plusieurs vies. Le destin ne l'a quand même pas toujours aidé. Hein.
Non, et il n'a pas toujours aidé son destin non plus. Et à trop vouloir, parfois, c'est difficile, mais on lui proposait aussi beaucoup de choses. On lui proposait aussi par sa notoriété, par cette formidable sympathie qu'il avait auprès du public. Voilà, il n'était pas, c'est pas quelqu'un de facile. D'ailleurs, aucun danseur, aucune danseuse, d'ailleurs, aucun être humain d'ailleurs n'est facile. Mais il transformait tout. C'est un être bondissant. Et c'est joli ce que dit sa compagne Leïla, qui parle de sauter pour rejoindre. Oui, c'est vrai, c'est un peu romantique, mais c'est un personnage romantique, Patrick.
Ce qu'on va retenir de lui ce soir, effectivement, cet être bondissant, charismatique, romantique. Merci beaucoup, Brigitte Lefèvre, ancienne directrice de la danse à l'Opéra de Paris, pour cet hommage en direct ce soir sur Europe 1 à Patrick Dupont, qui vient de disparaître à 61 ans. Dans l'actualité également, ce soir, le gouvernement qui compte donc sur une accélération de la vaccination pour tenter d'enrayer l'épidémie de Covid.
Le Premier ministre et le ministre de la Santé l'ont encore rappelé hier. L'objectif tient en deux chiffres. 10 millions de Français doivent avoir reçu une première injection d'ici la mi-avril, 30 millions d'ici l'été. Et pour cela, ils n'hésitent pas à ressortir des frigos les doses d'AstraZeneca non utilisées mais encore valables. Convaincre les Français ne sera pas trop difficile. En revanche, Isabelle, pour les soignants, ça c'est une autre paire de manches.
Oui, c'est un enjeu stratégique même. Hein. 30% des soignants seulement sont aujourd'hui vaccinés contre le virus. Pour l'instant, il n'est pas encore obligatoire ce vaccin, mais il pourrait le devenir. Et avant d'en arriver là, Mathieu Charrier, Olivier Véran veut convaincre les réticents.
Oui, et pour cela, il leur a envoyé une lettre il y a une demi-heure. Je l'ai ici, les mots sont clairs, elle fait une vingtaine de lignes. Après un premier paragraphe, pour remercier les professionnels de santé mobilisés sans relâche, dit-il, face à la plus grande pandémie de l'histoire contemporaine, le ministre de la Santé rentre dans le dur. Il leur rappelle que seulement 30% d'entre eux dans les établissements de santé sont vaccinés, 40% dans les EHPAD, un chiffre encourageant mais qui progresse trop peu selon Olivier Véran, alors que les stocks de vaccins AstraZeneca sont là. Il y a ensuite cette injonction, je vous le demande pour vous-même, votre entourage, les Français, si vous n'êtes pas encore vacciné, faites-le rapidement, il en va de notre sécurité collective. Le message est clair, le ministre ne menace pas encore de rendre cette vaccination pour les soignants obligatoire, même s'il n'a pas fermé la porte à cette éventualité. Je vous rappelle que le Covid est devenu la première maladie nosocomiale à l'hôpital, ça veut dire qu'il y a des gens hospitalisés pour d'autres pathologies et qui ressortent avec le Covid. Olivier Véran signe sa lettre bien confraternellement, soulignant au passage que lui-même est médecin et que vous vous en rappelez, il s'est fait vacciner.
L'exécutif dit vouloir accélérer, mais est-ce qu'on a un calendrier précis des prochaines semaines?
Alors oui, il y a plusieurs objectifs. D'abord, que 10 millions de Français aient été vaccinés d'ici le 15 avril. Ça veut dire en gros 1 million d'injections par semaine. On doit donc accélérer, mais ça devrait être rendu possible par les livraisons de vaccins qui vont s'intensifier. 22 millions, par exemple, de doses attendues sur les mois de mars et avril. C'est trois fois plus qu'en janvier-février. Ça, c'est donc le premier objectif, tout simplement pour que les personnes les plus à risque soient protégées à la mi-avril et pour pouvoir desserrer un peu les taux. Ce sont les fameuses 4 à 6 semaines à tenir. Ensuite, le gouvernement veut faire en sorte qu'en mai, 20 millions de Français aient reçu leur première vaccination. Ça veut dire l'ensemble des plus de 50 ans volontaires. Et enfin, d'ici l'été, objectif, 30 millions de Français vaccinés, soit la majorité des volontaires en âge de l'être, ce qui pourrait laisser d'envisager un été avec un peu moins de restrictions.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants? On y reviendra tout à l'heure avec les grandes voix d'Europe 1 à partir de 18h30. Dans le Pas-de-Calais, les habitants sont donc contraints de rester chez eux depuis maintenant 8 minutes, Christophe.
Et 41 secondes, c'est le premier des 4 week-ends de confinement à imposer au département. Interdiction de sortir jusque lundi matin, 6h, sauf motif impérieux.
Vous savez que Paris et l'Île-de-France ont échappé à la mesure, mais dans la capitale, le préfet de police veut empêcher les attroupements et les apéros en bord de Seine ou sur certaines grandes places.
Il vient de prendre un arrêté qui interdit la consommation d'alcool le long des quais de Seine, du canal Saint-Martin entre 11h et 18h. Attention, certaines rues et certaines places sont également visées par cet arrêté qui s'étend jusqu'au 21 mars.
Dans l'actualité aussi, à Marseille, un homme armé d'un couteau a finalement été interné après son interpellation. C'était à proximité d'une école juive.
Il s'agit d'un homme de 60 ans qui est sorti de son véhicule avant de se diriger vers cette école du 13e arrondissement. Il a été rapidement maîtrisé et interpellé. Son état psychologique n'était pas compatible avec son maintien en garde à vue. Il a effectivement été transféré dans un hôpital psychiatrique. Et puis, dans l'enquête sur la violente agression d'un photographe à Reims, on apprend ce soir qu'un deuxième suspect est en garde à vue. Il s'est spontanément présenté aux policiers.
C'est historique. C'est un événement pour les chrétiens. Le pape François est arrivé aujourd'hui à Bagdad, en Irak.
Un déplacement plus que symbolique. Une visite de 3 jours auprès de l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Le pape François a rencontré les responsables politiques et religieux dans un pays ravagé par la guerre et la crise. Il s'est aussi rendu dans la cathédrale de Bagdad. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes notre envoyé spécial en Irak.
Oui, c'est une visite en forme d'hommage aux victimes du pire attentat antichrétien du pays. 48 personnes tuées en pleine messe. Cathédrale qui sonnait un peu creux car une poignée de personnes a été choisie pour assister à cette cérémonie. Ce n'est pas la sécurité qui est en cause, mais la pandémie. Quelques minutes plus tôt, le pape François donnait le ton de sa visite.
Après une crise, reconstruire ne suffit pas. Il faut s'appliquer à bien le faire pour que tout le monde ait une vie digne. On ne sort pas tous égaux d'une crise. On en sort soit meilleur, soit plus mauvais. Mettons fin à la violence, mettons fin aux extrémismes.
Sur son trajet, quelques fidèles ont bravé le confinement pour l'apercevoir. Un bref instant passé devant eux dans une berline noire, seule une main dépasse. Mais ça suffit pour réjouir Mariam qui a suivi la journée devant sa télé.
Je l'ai vu arriver et pour moi je considère que c'est un miracle qu'il soit là avec nous en Irak. Il y a quelques semaines encore, c'était impensable d'imaginer qu'il puisse venir jusqu'ici. Cette fois, ça y est.
Ça y est, 3 jours sur les traces d'Abraham, le patriarche des 3 grandes religions monothéistes, des traces que François dit vouloir suivre comme un pénitent qui vient demander pardon.
Jean-Sébastien Soldaini, qui est donc l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1, l'usine Bosch de Rodez, licenciée victime de la désaffection pour les voitures diesel.
Et puis le Vendée Globe, c'est fini, le dernier concurrent vient de rentrer au port, on peut même dire qu'il a atterri.
18h13, c'est la suite du journal de Christophe Lamar avec ce choc à Rodez après l'annonce d'un plan de suppression d'emplois à l'usine Bosch.
Oui, l'équipementier spécialisé dans les injecteurs et les bougies pour moteurs diesel veut supprimer 750 emplois d'ici 2025. Et c'est bien la chute des ventes de voitures diesel qui explique en grande partie cette décision du groupe, Olivier Samin.
Oui, les Européens se détournent des véhicules diesel et l'usine Bosch de Rodez en subit le contre-coup. Entre 2018 et 2020, la production d'injecteurs diesel a été divisée par 2 à Rodez. Et la situation depuis s'est aggravée avec la crise mondiale et l'épidémie de Covid. Voilà comment la direction du groupe justifie l'annonce qu'elle a faite ce matin aux représentants du personnel. Mais le groupe Bosch affirme sa volonté de maintenir l'activité industrielle sur le site et mise pour cela sur la diversification qui a été amorcée il y a 2 ans. Il n'empêche... Les syndicats parlent ce soir de trahison. En 2018, 3 d'entre eux avaient signé un accord de transition prévoyant des efforts des salariés sur leurs jours RTT et leurs primes d'intéressement, en contrepartie de plusieurs millions d'euros d'investissement sur le site. Pour Jean-Pierre Cabrol, délégué sud de l'usine, les promesses n'ont pas été tenues.
C'est une trahison parce que, avec tous les engagements que les salariés avaient pris pour faire des efforts et donner un avenir à ce site, on s'était donné du temps et on voit que la direction nous abandonne et on est vraiment écœurés là.
Pour les syndicats, c'est tout un pan du savoir-faire de cette usine, la plus grosse du département, qui est vouée à disparaître.
Les précisions d'Olivier Samin du service Éco d'Europe 1. Et puis ça y est, il est arrivé le 25e et tout dernier concurrent du Vendée Globe qui a enfin touché terre ce matin.
Bah oui, après 116 jours de navigation en solitaire, Harry Usella est donc rentré au Sable d'Olonne. On peut même dire qu'il a atterri puisqu'il est pilote de ligne dans le civil. La fin d'une épopée pour un homme vraiment atypique, Corinne Boulou.
Accueilli en héros, Harry Usella, ce matin au ponton d'honneur. Lui qui avait troqué le temps d'un tour du monde, sa casquette de commandant de bord au sein de la compagnie Finnair, pour celle de capitaine au long cours. Cette passion de la mer, il la cultive depuis une première traversée de l'Atlantique il y a une 20aine d'années. Il a décidé de se lancer dans l'aventure Vendée Globe en achetant sur ses propres deniers son voilier de 18 mètres, désormais en vente. Harry Usella, à 58 ans, c'est la force tranquille. Et s'il a trouvé parfois le temps long à bord, il est toujours resté positif, heureux de partager notamment ses nombreuses photos de coucher de soleil. De beaux souvenirs d'une sacrée aventure pour le Finlandais. Le vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven, arrivé 36 jours plus tôt, lui rend hommage.
C'est un beau défi qu'il a fait. Ça a dû certainement être plus dur pour lui au final que pour moi. Donc, je trouve que Harry a fait un très, très, très beau parcours. Et puis, c'est bien que tout le monde soit rentré au port sans trop de pépins, sans trop de casse. Donc, tous ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne en course ou hors course, pour moi, sont victorieux.
Et c'est donc Harry Usella, aujourd'hui véritable phénomène en Finlande, qui referme le livre d'une édition record. 80% des bateaux au départ ont réussi à terminer leur tour du monde, du jamais vu. Rendez-vous maintenant dans 4 ans.
Voilà, rendez-vous est pris. Merci Corinne Boulou.
Bravo à tous ces champions et merci à vous Christophe Lamar. On vous retrouve à 18h30. Anissa Haddadi, un temps agréable demain dans le nord, mais ce sera plus instable dans le sud.
Oui, alors on va commencer par les mauvaises nouvelles Isabelle. Du Poitou-Charentes jusqu'à la Bourgogne, nous avons quelques nuages qui circulent tout au long de la journée. Dans le sud-ouest, des Pyrénées jusqu'à l'Auvergne et même jusqu'aux Alpes et en Provence, les nuages sont très nombreux demain avec des brouillards le matin et des averses fréquentes tout au long de la journée. Dans les Alpes et les Pyrénées, il neige à partir de 1500 mètres d'altitude. La bonne nouvelle, elle se trouve au nord de la Loire, de la Bretagne aux Ardennes en passant par la Normandie, les Hauts-de-France et la région parisienne. Le temps est lumineux, ensoleillé, très agréable mais froid puisque la bise souffle encore demain. On va avoir froid et les températures baissent, moins 4 à Épinal, moins 3 à Nancy, moins 2 à Montluçon, moins 1 à Lille, 0 pour Paris et 8 à Nice demain matin. Au meilleur de la journée, nous aurons 7 à 11 degrés sur la moitié nord, 11 à 14 sur la moitié sud et jusqu'à 16 degrés au bord de la Méditerranée.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
Europe 1, Isabelle Millet.